Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, nous voici avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Nous dénonçons les abus de pouvoir et les injustices parce que nous les avons vécus pleinement et comme nous avons franchi la ligne militante, nous sommes retrouvés devant des milliers de victimes qui partagent le même souci et la même inquiétude. Pouvons-nous vivre un jour dans cette société soi-disant exemplaire dans le respect de la loi, loin de la terreur des abus de pouvoir ? La justice est un fardeau de société et chacun de nous devra être conscient de cet enjeu capital, voire essentiel et conditionnel à l'existence de l'État espéré. Donc il arrive des fois que les lois existantes font défaut et nous aurons l'occasion de vous citer des exemples où les lois adoptées protègent plutôt les intérêts de l'État et brument considérablement ceux des citoyens. Notamment les citoyens ordinaires, les innocents et les moins familiers avec le système judiciaire et ses rouages. Donc, les vulnérables aux abus de pouvoir, et combien sont-ils nombreux dans notre société d'aujourd'hui? Des cibles potentielles, faciles à repérer par l'appareil policier. Quand je dis appareil policier, d'aucune façon je vise tous les policiers. Il y a des policiers, des officiers, des responsables qui respectent hautement leurs fonctions et heureusement qu'ils sont là. Sinon, nous pouvons dire, dans ce sens bien précis, adieu à cette société. J'ai trouvé, et j'ai toujours dit aussi, et je le répète, un peuple froissé par les injustices ne va nulle part que vers la destruction. Chers auditrices, chers auditeurs, vous savez tous que chaque fois qu'une personne est abattue ou tirée par un agent de la SPVM, l'enquête est automatiquement confiée à la Sûreté du Québec. Donc, un autre corps de police qui mènera l'enquête pour déterminer les circonstances de la mort ou de l'accident. Et finalement, s'il y aura lieu des accusations à porter contre le policier ou la policière impliquée dans l'incident. Donc cette nomination, si vous voulez, d'ailleurs, fortement critiquée par la société civile depuis très longtemps, visiblement, nous sommes devant un conflit d'intérêts. Un policier n'est pas supposé d'enquêter sur un autre policier. Bref, c'est des choses qui sont dites des centaines de fois, mais en vain. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous dévoiler la preuve à l'appui que chaque fois où un citoyen est abattu ou blessé par un agent ou une agente de la SPVM, la Sûreté du Québec qui se dépêche sur les lieux et malheureusement avec la complicité de la plupart des médias débute leur enquête en diffusant des informations erronées de mauvaise foi. Et je vous ai promis lors de la dernière émission de vous parler de cette dernière victime abattue la nuit du mardi le 26 janvier sur la rue Molson par une agente de la SPVM. Vous allez assister à l'écoute de deux témoignages complètement contradictoires. Deux témoignages qui vont dans le même sens. Pourquoi la Sûreté du Québec, par l'aide de nos médias, déforme-t-il négativement l'image des victimes, mais dès le début de l'enquête? Vous avez avec vous ce matin au micro Hadj Zitouni, un militant d'Image, un organisme en défense des droits de la personne face à l'appareil de notre système judiciaire. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps au 514-273-4302 ou bien nous écrire à info@commercialmage-québec.com. Nous allons faire une pause musicale et nous revenons avec notre thème d'aujourd'hui. Entre le faux et le vrai, il y a une bonne ou mauvaise foi ou volonté qui s'installe. Mes chères auditrices, chers auditeurs, sachez qu'en tout temps, vous demeurez les honorables juges de cette tribune. À vous de juger. Restez à l'écoute.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreaux et torturés, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Dans cette première partie, donc, je vous présenterai le témoignage d'un citoyen qui nous a appelé cette semaine et par la suite il est venu nous rencontrer. Donc il nous a raconté son drame avec beaucoup d'émotion, une triste histoire qui me rappelle beaucoup d'autres, mais celle-ci, elle m'a affecté énormément. Pourtant, je suis habitué à entendre les témoignages des victimes, pour le mieux ceux qui n'ont pas eu la chance de rester vivants après une intervention policière. Donc, je reconnais que celle-ci m'a définitivement marqué. Permettez-moi, chère auditrice, cher auditeur, de vous décrire cette personne qui va témoigner sur les ondes dans quelques instants. Donc, bref, c'est une personne, à mon avis, totalement finie, physiquement et mentalement. Donc, elle fonctionne à l'aide de tant de médicaments, elle est maigre, au regard profondément triste, son œil gauche clignote en permanence, méfiante, en regardant à gauche et à droite tout le long de notre entrevue. Elle sourit de temps en temps, en me demandant si je pouvais l'aider. Elle a l'air aussi de chercher constamment une assurance chez l'autre. Âgée de 35 ans, sans adresse fixe, selon des renseignements fiables, des citoyens de sa communauté l'abritent chez eux de temps en temps pendant ces moments froids de l'année. Sinon, elle passe ses journées et ses nuits dans les rues et les ruelles de Montréal. Elle souffre depuis 2007 de troubles bipolaires avec psychose actuellement contrôlée. Et pourtant, c'est une personne qui était très bien avant d'arriver au Québec, sain d'esprit et du corps, un excellent joueur de soccer, travaillait fort pour faire vivre ses frères et ses sœurs, puisqu'il était le chef de famille. Vous allez l'entendre lui-même, qu'il va vous confirmer qu'il était très heureux et qu'il regrette énormément d'avoir accepté de venir vivre ici au Québec. Influencé par un consultant d'immigration qu'il a rencontré par hasard dans la ville de Casablanca au Maroc, il va décider de tout abandonner pour venir vivre ici au Québec. Le Canada s'ouvre dans sa pensée et reste allumé jusqu'à son arrivée au Québec en 2002. Il pensait sérieusement qu'il avait atteint le paradis terrestre comme des milliers et des milliers d'autres. Justice, paix et prospérité. Mais vous avez, ou plutôt vous allez voir même avec vos propres yeux de quelle étape ou de quel étage il avait chuté le pauvre. Donc en 2007, alors qu'il sortait d'un épisode troublant que vous allez entendre tout à l'heure, il heurte un mur encore plus dur qui est le réel de notre société. Et rapidement, il perd la boussole. Le corps est bien présent, mais l'esprit est ailleurs. Attendez, ce n'est pas encore fini, c'est comme tout ça n'était pas assez. Le soir du 1er mars 2008, alors qu'il avait trop faim, pas d'argent sur lui, il avait décidé d'aller chez le dépanneur à côté pour lui demander de lui avancer des œufs, parce qu'il avait trop faim et qu'il va lui payer, par exemple, une fois qu'il aura de l'argent. Le dépanneur va refuser et notre homme insiste et part avec les œufs. Le dépanneur avise les policiers et donne les descriptions. Le lendemain matin, le 2 mars 2008, cette personne sentit le besoin d'aller à l'hôpital et en route, il aperçoit une voiture de patrouille. Il s'enfuit. Le policier, soi-disant, l'a reconnu. Il courut derrière lui. Une fois proche, il ordonne de s'arrêter. Celui-ci exécute. On lui demande aussi de vider ses poches. Il se plie à l'ordre. Mais malgré tout ça, il reçoit une balle dans le bas du corps. Il a vu une artère tranchée. Heureusement qu'il était transporté rapidement à l'hôpital, sinon il mourrait dans les instants qui suivirent. Le lendemain, le 3 mars 2008, le journal de la presse affirme, selon la Sûreté du Québec, que l'intervention policière faisait suite à l'appel au 911 d'un citoyen qui croyait reconnaître au monsieur Tayen le coupable d'une tentative de braquage. Mais là, regardez bien, nous avons d'un côté des œufs et de l'autre côté le mot « braquage ». Allons-nous plutôt aux choses. Donc, nous acceptons le fait que la victime avait volé des œufs, plus précisément une douzaine, que j'espère qu'il n'était pas périmé. Lui, il avait volé parce qu'il avait faim, même trop faim. Y a-t-il quelqu'un qui peut nous dire pourquoi Earl Jones avait volé 100 millions de dollars? Pourquoi John Doyle avait volé 124 millions de dollars? Pourquoi aussi, par exemple, Vincent Lacroix avait dérobé 115 millions de dollars? Et pourquoi? Est-ce qu'ils avaient faim ou peut-être trop faim et pourtant personne n'avait tiré sur eux? Cette société lui avait pourtant promis tout, ce type-là. Mais en réalité, elle lui a tout pris. Une société qui lui a violé sa dignité, sa vie, son rêve d'exister. Je lui cède la parole, écoutez-le, et jugez vous-même. Voilà, donc, bonjour monsieur, pouvez-vous nous rappeler votre nom au complet?
Mon nom complet, c'est Mohamed Tayan.
Oui, votre date de naissance?
01-01-75.
Ok, vous vivez où vous vivez avant de venir ici au Québec?
J'ai vécu au Maroc, à Casablanca.
À Casablanca. Et êtes-vous marié?
Non, pas marié, je suis célibataire.
Vous vivez à Casablanca avec qui?
J'ai vécu avec la famille.
Ils sont composés de combien de personnes?
Vous
avez combien de sœurs, combien de frères?
5 sœurs et 3 garçons.
Et comment vous décrivez votre vie là-bas? Comment vous étiez là-bas au Maroc?
J'étais heureux, j'étais joyeux, j'ai vécu une vie superbe.
Ok. Vous vivez bien?
Oui, j'ai vécu bien.
Ok. Vous n'avez pas de problème?
Pas de problème, non, pas avec personne.
Et vous m'avez dit que vous faisiez du sport?
Oui, j'ai fait du sport, j'ai joué au soccer avec des équipes.
Est-ce que vous jouez là-bas avec quelle équipe là-bas?
J'ai joué
à quel niveau peut-être aussi?
Niveau 3e division.
3e division.
Oui, donc, j'avais le niveau 1ère division, c'est juste... j'ai lâché l'école et j'ai travaillé parce que je n'étais pas capable de continuer à jouer. J'étais obligé de travailler pour donner un coup de main à ma mère.
À la famille. Ça veut dire que vous disiez que ce n'était pas assez pour vous, donc vous étiez obligé de laisser les études et le sport aussi. pour travailler parce que la famille, ils avaient besoin.
Oui, exactement.
Exactement. Mais maintenant, je veux savoir, vous étiez bien là-bas et tout, et comment l'idée d'émigrer au Québec est venue? Comment vous avez pensé à venir au Québec?
J'ai rencontré un Canadien qui travaille à l'immigration.
Vous avez rencontré un Canadien qui travaille à l'immigration?
À l'immigration.
Il s'appelle comment ce monsieur-là?
Il s'appelle Yvan Guérin.
Yvan Guérin. Et vous l'avez rencontré dans quel cadre?
Je l'ai rencontré le moment quand j'ai pris un taxi, je l'ai rencontré à côté de moi. Il m'a parlé, il m'a dit bonjour, je lui ai dit bonjour, il m'a dit moi je travaille
à l'immigration,
je suis canadien. Donc, voilà mon numéro de téléphone si vous avez besoin de moi.
Rappelle-moi. Et est-ce que vous l'avez rappelé?
Je l'ai rappelé pendant un mois plus tard, je l'ai rappelé.
Pourquoi vous l'avez rappelé?
Je l'ai rappelé pour savoir pour savoir comment le Canada, savoir...
Pour qu'il vous parle un petit peu du Canada?
Pour qu'il me parle du Canada, il parle un petit peu de Québec.
Ok, et il vous a proposé quoi, lui?
Il m'a proposé de travailler avec lui comme un guide touristique.
Et vous avez commencé à travailler avec lui comme un guide touristique, c'est ça?
Oui.
Combien de temps?
Travailler avec lui depuis 3 ans.
Vous avez travaillé avec lui au Québec, au Maroc, depuis 3 ans.
3 ans.
Comme guide touristique.
Oui, c'est moi qui l'amène faire l'entrevue avec des gens.
Oui, oui.
C'est moi qui l'amène avec ma voiture partout où il y a ces rendez-vous.
C'est toi qui fais tous les premiers rendez-vous, qui s'occupait de ça et tout. Oui. Ça a été bien. Et est-ce que c'est lui qui vous a proposé de venir faire une demande ou c'est aller vivre au Québec?
C'est lui qui m'a demandé, il m'a proposé de faire une demande d'immigration pour venir vivre ici à Québec parce qu'il m'a dit qu'il y a la qualité de vie différente.
La qualité de vie, elle est meilleure, ça c'est
la meilleure. Ouais. Il y a de la paix, il y a de la justice.
C'est ça. Et qui a fait les démarches pour vous?
C'est lui qui a fait les démarches.
C'est lui qui a fait pour vos démarches, oui. Et vous avez reçu votre statut de résident au Québec?
Oui, j'ai reçu mon statut de résident permanent du Québec.
En quelle année?
C'était en 2003.
En 2003, si je ne me trompe pas. Et vous avez voyagé au Québec en juin 2003, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce qui est arrivé, comment c'est arrivé? Qui vous a accueilli chez lui ici?
C'est lui qui m'a accueilli chez lui.
Ok.
Mais je n'ai pas resté longtemps ici la première fois. J'ai resté 27 jours. J'ai fait le retour dans mon pays. J'ai resté un an au Maroc.
Mais pourquoi vous avez resté 27 jours ici au Québec et vous êtes revenu? Pourquoi?
Parce que je suis habitué avec la chaleur, l'amour de la famille, des amis. Je n'avais pas d'amis ici. Je n'avais pas de famille.
Et vous n'avez pas aimé finalement?
Je n'ai pas aimé finalement ici.
Donc vous êtes retourné au Maroc. Vous êtes resté une année.
Une année, oui.
Et pendant une année, ça a été bien. Vous avez coupé. Pourquoi l'idée est revenue pour revenir au Québec?
C'est lui qui m'appelle toujours.
C'est Yvan Guérin qui vous rappelle, qui vous a appelé au téléphone?
Au téléphone, il me dit, viens, je te donne un coup de main, viens, tu vas voir, viens. Tu
il vous a, ok, vous a convaincu de revenir au Québec?
Oui.
Il vous a appelé combien de fois, il vous a appelé, lui?
Souvent.
Souvent, il vous appelle?
Souvent, il m'appelle.
Il vous demande, reviens, c'est ça?
Oui, reviens au Canada, reviens à Montréal.
Ok. Et finalement, après un an, tu as décidé de revenir au Québec?
Oui, après un an, j'ai décidé de revenir au Québec.
Quand vous êtes arrivé ici en 2004, si je ne me trompe pas, juin 2004, il m'a dit?
Juin 2004, oui.
Ok. Et vous êtes arrivé ici en juin 2004, et qui vous a accueilli chez lui? Ou vous avez,
c'est lui qui m'a accueilli.
C'est lui qui vous a accueilli chez lui?
Oui.
Et lui, il vivait tout seul ou il vivait avec des gens?
Il vivait tout seul.
Tout seul. Donc, vous vivez avec lui. Combien d'années vous restez avec lui?
Je restais avec lui en 2004, 5, 6, 6, 3 ans et demi.
Vous vivez chez lui pendant 3 ans et demi, est-ce que vous travaillez?
Non, j'ai pas travaillé, non.
Vous n'avez pas travaillé, mais est-ce que vous gagnez d'aide sociale?
Non, j'ai pas gagné d'aide sociale.
Qui s'occupait de votre financement, là, et tout?
C'est lui qui s'occupe de moi.
C'est lui qui payait tout.
Il paye tout pour moi.
Et finalement, après 3 ans et demi, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi vous êtes parti de chez lui?
Parce qu'il m'a dit, je veux rester seul maintenant, j'ai perdu mes amis à cause de toi, il faut que je retrouve mes amis, il faut que je reste seul avec mes amis.
Il ne voulait plus de vous, là. Il vous dit, je veux que tu t'en vas, c'est ça?
Il m'a dit, je veux que tu t'en vas, oui.
Et comme ça, vous avez pris vos bagages, vous êtes parti chez vous, chez lui, c'est ça?
Je suis parti chez lui.
Et quand vous êtes parti chez lui, vous êtes parti où, monsieur?
J'ai loué un appartement.
Vous avez loué un appartement, et, mais financièrement, qui vous donne l'argent pour payer l'appartement?
Personne, c'est l'aide sociale qui me donne $500 par mois.
$500 par mois?
Oui.
Et qui vous a demandé, qui vous a aidé pour faire les démarches pour gagner l'aide sociale, pour avoir la demande d'aide sociale?
C'est Yvon Guérin.
C'est Yvon Guérin toujours qui vous a fait les démarches pour gagner, pour avoir l'aide sociale?
Pour avoir l'aide sociale.
Et de ce jour-là, il s'est débarrassé de vous définitivement, il ne veut rien savoir, c'est ça?
Il ne veut rien savoir.
Ok. Maintenant, on tombe un petit peu en 2000. Vous vivez comment là? Vous payez $500, je ne sais pas combien vous payez votre appartement. Est-ce que vous avez eu de l'argent pour vivre correctement?
J'ai pas d'argent pour vivre.
Les gens arabes
qui me demandent un peu d'argent, un peu de nourriture.
Ah, vous n'avez pas à quoi pour manger, pour se nourrir, rien du tout?
Non, c'est juste les amis, les gens que je connais arabes.
Un peu de l'aide partout, c'est ça?
Un peu de l'aide partout, oui.
Ok. Maintenant, si vous me permettez, je veux savoir, qu'est-ce qui t'est arrivé le mois de... Mais avant de poser la question, est-ce que vous avez cherché du travail?
Oui, j'ai cherché un travail, je ne l'ai pas trouvé.
Il n'y avait pas de travail pour vous?
Pas de travail pour moi.
Combien de fois vous avez cherché du travail? Un mois, un an? Combien vous avez cherché? Combien de fois?
Des années.
Tu as toujours cherché du travail?
Toujours cherché du travail.
Et vous n'avez jamais trouvé un travail?
Jamais trouvé un travail.
Ok. Et maintenant, je reviens à l'incident. Pouvez-vous nous dire, le 1er mars 2008, qu'est-ce qui est arrivé le 1er mars 2008?
1er mars 2008, je crois, j'ai parti au dépanneur pour demander, prêtez-moi les œufs.
C'est le soir, hein?
C'est le soir, oui.
Et donc, pourquoi vous êtes parti pour que le dépanneur, il vous donne des œufs? Pourquoi?
J'ai dit, parce qu'il me connaît.
Oui.
J'habite à côté de lui, je lui ai dit, j'ai pas d'argent maintenant, j'ai pas eu mon chèque.
Vous avez pas reçu votre chèque, et vous l'avez demandé de vous donner les œufs pour manger et quand vous aurez votre chèque, vous le payerez, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et qu'est-ce qu'il a dit, lui?
Il a refusé.
Et qu'est-ce que vous avez fait?
J'ai pris les œufs, j'ai
parti. Vous êtes parti avec les œufs?
Parti avec les œufs.
Pourquoi?
Parce que j'avais mal à l'intérieur de mon ventre.
Le mal, vous avez faim ou c'était quoi?
J'ai faim.
Vous avez trop faim?
Trop faim, oui.
Donc pour vous, vous étiez obligé de prendre ces œufs-là, vous n'avez pas le choix?
J'étais obligé, j'ai pas le choix.
C'est comme si vous aviez trop faim.
J'ai trop faim, oui.
Donc vous êtes parti avec les œufs. Et vous êtes rentré chez vous, c'est ça?
Oui.
Parfait. Qu'est-ce qui est arrivé le lendemain, le 2 mars 2008?
Le lendemain, j'ai décidé d'aller à l'hôpital pour manger.
Mais vous êtes suivi aussi au niveau psychiatrique?
Oui, j'ai suivi au niveau psychiatrique déjà, oui.
Vous étiez déjà suivi au niveau psychiatrique?
Oui.
Pourquoi? Vous voyez quoi?
Je vois des images, je vois des... comme...
Oui?
Des diables.
Vous voyez des diables?
Oui, qui bougent, et je vois des gens qui veulent me tuer avec des diables.
Oui. Et vous avez eu peur ou quoi?
J'avais peur, oui.
Donc, le 2 mars, comme vous m'avez bien expliqué, le 2 mars, vous avez décidé d'aller à l'hôpital parce que vous avez besoin d'aller à l'hôpital, c'est ça?
Oui, j'en ai besoin, parce que j'étais malade, gravement malade.
Vous avez malade. Et qu'est-ce qui est arrivé au cours de chemin?
Au cours de chemin, la police est arrivée.
Oui.
Elle m'a dit, après, le revolver sur ma tête.
Ok, on va prendre une pause musicale et on va revenir avec vous, Monsieur Mohamed.
Ok.
Rebonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Je préfère continuer, faute de temps, l'entrevue avec Monsieur Tayan. Donc, rebonjour, Monsieur Mohamed Tayan. Je veux savoir, vous disiez que cette journée du 2 mars 2008, alors que vous partez pour l'hôpital, parce que vous avez jugé nécessaire d'aller voir votre état, il y a un policier qui arrête et il vous braque son pistolet en direction de vous, c'est ça?
En direction de moi, directement.
Il vous a demandé quoi?
M'a dit, sort votre arme.
Qu'est-ce que vous avez répondu?
Je dis, j'ai pas d'arme.
Ok.
J'ai rien, j'ai pas d'arme. M'a dit, sort votre arme, trois fois.
Qu'est-ce que vous avez dit toujours?
J'ai dit, j'ai pas d'arme, j'ai rien, j'ai pas d'arme.
Et puis?
J'ai vidé mes poches.
Vous avez vidé toutes tes poches?
Toutes mes poches.
Qu'est-ce qu'il y avait dans vos poches, monsieur? Oui.
Un cellulaire.
Il y avait un cellulaire dans votre poche?
Oui, la clé de la maison.
La clé de la maison.
Un portefeuille.
Un portefeuille.
Des monnaies.
La monnaie.
Et un peu de monnaie et un exacto.
Mais qu'est-ce qui faisait l'exacto chez vous, là?
L'exacto, je l'ai oublié dans ma poche parce que j'ai travaillé déjà avec un Palestinien et je l'ai oublié dans ma...
Qu'est-ce que vous faisiez avec le Palestinien? Vous travaillez quoi?
J'ouvre les boîtes.
Avec l'exacto?
L'exacto, j'ouvre les boîtes.
Mais quand le policier vous a
il vous a braqué le pistolet en plein visage, il vous a demandé de lever vos mains. Est-ce que vous avez débarrassé, vous avez jeté tout ce qui était, vous avez vidé complètement
votre portefeuille? J'ai vidé toutes mes poches, j'ai vidé toutes mes poches. Pour okay. La part qui me tire, c'est à moi.
Et vous avez fait quoi après?
J'ai levé les mains dans les airs.
Vous avez levé une main ou les deux mains?
Les deux mains dans les airs.
Et qu'est-ce qu'il a fait lui après?
J'ai fait un sourire avec lui pour qu'on n'a pas quitté, c'est moi.
Vous avez souri?
Oui.
Et vous avez levé les mains très haut?
Très haut.
Et qu'est-ce qui est arrivé? Vous avez souhaité qu'il ne tire pas sur vous?
J'ai souhaité qu'il ne tire pas sur moi et il a tiré sur moi.
Il
pareil.
A tiré pareil sur vous?
Il a descendu de mon visage en bas un peu.
Oui.
C'est ma cuisse, directement c'est ma cuisse.
Et il a tiré sur vous?
Oui.
Ok. Et qu'est-ce qui est arrivé après? Tu es tombé, tu étais conscient? Ou
après j'ai perdu la connaissance.
Tu as perdu conscience, c'est ça?
Oui.
Et t'es tombé. J'imagine que vous étiez allé conduire à l'hôpital. Est-ce que après ça, est-ce qu'il y avait une enquête dans ce dossier-là?
Je savais. Il m'a dit qu'ils ont fait une
enquête.
Une enquête.
Oui.
Mais moi, je sais pas. C'est quoi le résultat de cette enquête-là?
Ok. Je veux savoir. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec les policiers avant?
J'ai pas de problème avec les policiers avant, non.
Avez-vous un quasi-judiciaire, monsieur?
Quasi-judiciaire, non.
C'est-à-dire que vous avez fait des erreurs avec les policiers ou avec la justice et tout?
Non, non, j'ai fait pas d'erreurs avec la police ou des erreurs, non.
Tu n'as jamais fait une infraction, tu n'as jamais eu de problème avec la police dans votre vie?
Non, jamais, jamais de problème
C'était
avec la police.
C'était la première fois?
C'est la première fois et la dernière fois.
Ok. Aujourd'hui, jusqu'à présent... Pourquoi vous êtes venu vers voir Mouvement Action Justice? Pourquoi vous êtes venu nous voir?
Pour m'aider, pour donner un coup de main à moi, pour me trouver un avocat parce que je n'ai pas de moyens pour payer l'avocat.
Oui.
Et pour
me guider. Vous trouvez votre cas, c'est injuste pour vous? Tout ce qui t'est arrivé, c'était injuste?
C'est injuste, oui, oui.
Et vous demandez quoi aujourd'hui?
Je demande l'aide.
De l'aide, oui. Vous demandez de justice aussi?
La justice aussi.
Oui. Si ça a été à refaire, est-ce que vous immigrez ici au Québec?
Non, non. Si je savais que je reçois un coup de feu dans ma jambe, je reviens pas, j'arrête pas ici à Québec.
Et la vie ici, comment vous trouvez la vie? Vous n'avez pas réussi à trouver un travail. Maintenant, avec votre pied encore moins, est-ce que vous arrivez à travailler avec votre pied comme ça?
Non, non, je ne suis pas capable de travailler avec mon pied comme ça.
Et vous vivez combien? Vous vivez tout seul aujourd'hui ou vous vivez avec quelqu'un?
Je vais chez mes amis. Chaque soir, je dors chez un ami.
Ah, vous n'avez même pas chez vous maintenant?
Je n'ai même pas chez moi, non.
Et vous allez chez des gens? Vous dormez chez des gens?
Je dors chez des gens, oui.
Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire maintenant aux citoyens? Qu'est-ce que vous souhaitez?
Je souhaite la belle vie à les citoyens et qu'ils font attention à eux. Et je souhaite des belles choses. Je ne souhaite pas qu'il arrive le mal que j'ai vécu.
Vous ne souhaitez pas que les gens aient à voir le même mal que vous avez reçu, c'est ça? Vous avez
oui,
vu,
exactement.
Hein? Merci, M. Tayane, pour votre témoignage.
De rien.
Radio Centre-Ville vous invite à faire connaître davantage vos produits et services. Vous êtes en affaires et aimeriez cibler certaines communautés de Montréal? Rien de plus simple. Nous vous aiderons dans la conception de votre message publicitaire et dans la stratégie à adopter pour vous adresser aux communautés que vous aimeriez rejoindre. Nous leur parlerons de vous dans leur langue maternelle. Ce sera donc personnalisé et fort sympathique. Radio Centre-Ville est à but non lucratif et nos tarifs publicitaires sont tout petits. Pour de l'information sur votre publicité à Radio Centre-Ville, rejoignez Daniel au 514-495-8836, 495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de vous sur Radio Centre-Ville.
L'actualité socio-culturelle et politique vous intéresse?
Alors prenez rendez-vous avec l'émission Montréal sans accent le mardi de 16h à 17h30 sur 102,3 FM Radio Centre-Ville.
Un beau choix musical fait aussi partie de cette émission.
Pour vos vacances au juste prix, 1-855 Mini-Prix ou 1-855-646-4774. Une agence de voyage d'ici vers tous les pays. 1-855 Mini-Prix. Service sans souci, toujours au juste prix. 1-855 Mini-Prix ou 1-855-646-4774. Détenteur d'un permis du Québec. Voyage, voyage.
Vous avez une soif inaltérable de savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville nous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102.3 FM et sur le câble au 88.3.
Rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Donc voilà, nous allons passer à notre deuxième partie de ce matin. Donc, la presse de jeudi, le 27 janvier 2011, nous a informé qu'une agente de la SPVM avait abattu un homme avec son arme de service dans la nuit de mardi et mercredi dans le quartier Rosemont. Donc, l'homme qui était abattu n'avait malheureusement pas de nom dans l'article, même s'il était connu des policiers. Donc l'individu en question avait 48 ans. L'article le décrit aussi, selon les informations données par la Sûreté du Québec, l'individu voulait attaquer la policière avec une arme blanche. Numéro 1. 2. L'individu a des antécédents en matière de violence conjugale. Encore, l'individu n'avait pas respecté les conditions de la cour en se rendant chez son ex. L'individu est rentré chez son ex par effraction. L'homme était au moment du drame intoxiqué. L'individu brandissait une arme blanche. L'individu était menaçant. Encore, un voisin a tenté de le raisonner, mais en vain. L'article continue aussi, le gaz poivre a même été utilisé. La policière aurait tenté de calmer l'individu sans succès. Le suspect aurait foncé sur la policière avec son couteau. Donc c'est ça la version. Et voilà finalement pourquoi cet homme devra mourir. Il était jugé sur le lieu de son propre drame, coupable, meurtrier, dangereux. Pour le SQ, cet individu il fallait finir, si vous voulez, avec cet individu-là, c'est tout. Donc il était finalement bon à rien. La policière qui a fait feu sur cet individu, elle était conduite à l'hôpital, en proie à un choc nerveux. La pauvre, elle avait vraiment eu un choc de tuer un homme qui n'avait l'intention de tuer personne. Vous voyez tous comment la Sûreté du Québec, à l'aide de la presse, nous présente les choses, et ceci dans tous les cas où il y a mort d'homme. C'est le même scénario qui se répète. Voilà pourquoi vous devrez comprendre que la société civile refuse qu'un corps de police enquête sur un autre corps de police. Il y a visiblement un conflit d'intérêts majeur, comme vous le constatez. Mes chers auditrices, chers auditeurs, je vous ai promis d'aller vous chercher des renseignements pour connaître mieux cet individu qui nous a été présenté par la Sûreté de Québec, coupable avant même d'être jugé. Il s'agit de Jean-Claude Lemay, 48 ans. Selon l'émission du faux négociateur qui a fait une exception cette fois d'être du côté de l'orphelin, la sœur de l'ex-conjointe de M. Lemay le décrit comme un homme calme. 1. Il ne disait jamais un mot plus haut que l'autre. 2. Il était un homme battu par son ex. Il a subi de la violence verbale et physique de la part de son ex-conjointe. Sa conjointe était violente et manipulatrice. Elle n'a pas de misère à faire fâcher quelqu'un. Nous sommes allés sur le lieu de son travail. Je pars toujours de Jean-Claude Lemay et nous avons rencontré un de ses collègues qui a travaillé avec lui pendant 5 ans. Nous allons écouter son témoignage. Peut-être allons-nous faire plus attention de ne plus écouter les mensonges de la Sûreté du Québec. Une chose qui reste toujours certaine, que M. Jean-Claude Lemay, comme ceux qui l'ont précédé, a pu continuer à vivre si seulement la policière n'avait pas paniqué. Ce n'est pas non plus tout le monde qui s'en fait pour être policier ou policière et d'avoir une arme à leur possession. Chers auditrices, chers auditeurs, nous allons faire une pause musicale et je céderai la parole à Stan, un témoin qui va nous donner l'image réelle de Jean-Claude Lemay, cet homme abattu par une agente de la SPVM le 26 janvier 2011. Restez à l'écoute, peut-être vous jugez vous-même qu'il ne méritait pas la mort.
Parmi les nuages de poussière, juste au bord de la terre. Et j'ai marché le long des routes, le ventre à l'air dans le ruisseau. Et même que le vent nous écoute, et la pluie va tomber bientôt. Je voulais juste marcher chez moi. Ce que je veux là, moi, je sais pas. Je pense à toi depuis le mien. Tellement de nuit sous la paupière. Forêt abattue, même sous la mitraille et le fer, moi je n'aurais rien vendu. Et que même dans l'espace Schengen, ils ont pas voulu de ma peau. Ce que je fais là, moi, je ne sais pas. Je voulais juste marcher chez moi. Ce que je fais là, moi, je ne sais pas. Je pense à toi.
Donc voilà, bonjour Stan. Voilà. Donc vous savez que la semaine passée, on parle de la nuit de mardi, le 26 janvier, il y a une agence de la SPVM qui a abattu un individu sur la rue Molson. Êtes-vous au courant de ça?
J'ai appris la triste nouvelle par les journaux, oui.
Oui.
Puis encore plus loin de ça, c'était une personne que je connaissais.
L'individu le connaissait lui-même.
C'est un colloque de travail, c'est un conjoint de travail.
Travaillez-vous au travail. Il s'appelle comment cette personne?
Jean-Claude.
Il s'appelle Jean-Claude?
Jean-Claude Lemay.
Lemay. Ok, vous le connaissez depuis combien de temps, monsieur Stan?
Depuis ma première journée de travail, ça fait faire 5 ans environ.
5 ans, vous travaillez avec la même personne depuis 5 ans?
C'est la première personne que j'ai vue au travail. C'est lui qui m'a formé.
C'est lui qui vous a formé dans c'est le travail que
Jean-Claude m'a formé. C'est lui qui m'a dit comment travailler, quoi faire avec quoi on travaillait dans une pâtisserie. Et puis, c'est ça, à travers les années, j'ai appris à connaître la personne, très bonne personne, chaleureuse.
Ça, justement, j'aimerais bien vous poser la question, comment vous pouvez décrire cette personne-là au travail?
C'est une personne qui travaille fort. Il vaut fort. 3 employés, sérieusement. Je ne l'ai jamais vu, à part dans ses breaks pour des cigarettes.
Oui.
Sinon, il travaillait, puis il ne pouvait pas passer son temps à rien faire.
Un excellent travailleur.
Il était admiré
par tout le monde.
Oui, oui. Puis même des fois, je pense qu'il faisait de l'overtime où il travaillait des journées de plus, justement à cause de la qualité de son travail.
Est-ce qu'il avait un comportement agressif au milieu de travail?
Non, c'est une personne qui ne se laisse pas marcher sur les pieds comme tout le monde, d'après moi, je pense.
Oui.
Et puis, qui faisait ses affaires, qui restait dans son coin, qui avait à partager s'il avait le goût de partager. Il était présent dans les fêtes que le boulot organisait.
Oui.
Et puis, sociable avec le monde.
Il respecte tout le monde et tout.
Oui, oui, il n'y avait pas de problème avec personne, à ce que je sache.
Oui. Vous le connaissez depuis 5 ans, Stan. Et est-ce qu'il était, il s'ouvrait un petit peu sur sa vie personnelle ou non?
Oui, pendant les pauses, il s'ouvrait avec moi puis d'autres collègues de travail.
Il s'agit de quoi quand il parle de qui?
Il parlait de sa vie de couple, parce que c'est ça que j'ai conclu, qu'il avait rien d'autre à part le travail, c'était sa vie de couple.
C'est sa maison et le travail.
C'est tout ce qu'il avait à faire. Entre les deux, c'était sa bicyclette, parce que c'est ça qui est le seul moyen de transport qu'il utilisait.
Vous avez dit qu'il se rendre de travail.
De travailler chez lui en bicyclette, en été comme hiver. Et je respecte beaucoup ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup que je vois faire ça. Il était tout le temps en bicyclette, je le voyais.
Revenons à son histoire avec sa femme, sa conjointe.
Ouais, c'est sa conjointe. Il me disait beaucoup qu'il y avait des histoires avec sa conjointe. Sa conjointe était sous médication, si je ne m'abuse.
Alors, il y avait des problèmes de santé ou quoi?
Il me disait qu'elle avait besoin de pilules. Puis c'est lui qui allait chercher ses pilules. En plus qu'elle allait chercher le pain, le lait, il s'occupait d'elle.
C'est lui qui fait les achats, ça veut dire.
Parce que madame restait à la maison.
Mais elle était incapable de faire des achats, des marchés.
Je pense que c'était par paresse. C'était par paresse, elle ne voulait pas. Elle savait que Jean-Claude était là pour lui.
Ouais.
Alors elle prenait ça en considération. Puis elle laissait Jean-Claude faire ses...
Et ça, c'est depuis 5 ans qu'il vous raconte la même chose?
La même chose.
La même histoire et de la même personne.
De la même personne.
Vous savez aussi que cette personne-là, il vit avec cette dame-là depuis une dizaine d'années environ,
Oui, j'ai appris entre les lignes, mais c'est lui qui me l'a raconté, qui était avec elle environ une dizaine d'années, que ça n'a jamais été la joie, même avec la famille de madame, je crois que ça allait pas très bien.
Avec qui? Avec lui ou avec elle-même?
Elle-même et sa propre famille. Je pense que c'était Jean-Claude lui-même qui faisait le pont entre les deux.
C'est-à-dire qu'il y avait les ponts, ils ont été coupés entre la famille et la dame, c'est ça?
Oui, exactement.
Donc elle avait des sérieux problèmes, c'est ça?
Oui, c'est ça que... Mais Jean-Claude, même si il me disait, ah, la fille est folle, ah, il était là encore pour elle.
Mais pourquoi il était... S'il avait des problèmes, pourquoi il ne l'a pas laissé et puis il est parti faire...
Je pense qu'il l'aimait.
Hein?
Je pense qu'il l'aimait.
Il était amoureux de lui.
Il l'aimait.
Oui. Et il a voulu aussi, comme vous venez de me dire, qu'il a voulu l'aider, c'est ça?
Il voulait l'aider par tous les moyens qu'il pouvait, le mieux possible. Il travaillait avec, comme le travail que je fais, c'est pas le meilleur salaire du monde, mais il faisait ça 40 heures semaine et il s'arrangeait tout le temps pour qu'il y ait du pain et du lait sur la table.
Et il assure sa vie. Mais si il pensait qu'ici, s'il va être retiré, elle peut crever ou je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de sa vie?
Plein de fois, il voulait partir, mais il voulait pas la laisser dans des problèmes, dans la marde, comme on dit.
Oui.
Alors, il restait là pour elle.
Mais ils se sentaient responsables ou...
Je sais pas, mais je sais que souvent, quoi, dernièrement, je lui ai parlé, il m'a raconté qu'au jour de l'an, ils se sont disputés, je pense. Alors, il a été incarcéré, il a passé le.
Ça, c'est pas du premier, la fin de.
La fin de cette année, la fin de 2010.
Le 1er janvier.
1er janvier 2011, Jean-Claude a passé.
Il avait une dispute avec sa conjointe.
Et qu'est-ce qui a résulté de ça, qu'il pouvait plus l'avoir. C'est ça qu'il m'a dit, qu'il a dû déménager.
Il avait une interdiction d'aller se rendre chez elle.
Exactement.
OK.
Il pouvait plus l'avoir. Il devait changer d'appartement, enlever tout ce qu'il avait. Et puis, à ce que je me souviens, il n'avait pas grand-chose. Deux sacs de poubelle avec du linge, c'est tout. Pas de.
Il est reparti avec ça. Ouais.
Il est parti avec ça. Il est allé se faire une autre vie chez un autre appart.
Ouais.
Et pareillement, il venait travailler, finir faire ses heures comme il fait d'habitude.
Mais est-ce qu'il parlait d'elle?
Quand il parlait d'elle, il avait souvent les larmes aux yeux.
Ouais.
Il avait souvent les larmes aux yeux. Il tenait à cette femme-là.
Ouais.
Moi, je l'ai vue une fois dans une fête de Noël. Elle me semble bien. Je n'ai rien contre elle. Je ne la connais pas. Mais je sais que Jean-Claude, c'était une des causes de ses problèmes. Il s'engueulait beaucoup.
Avec elle.
Exactement.
Mais vous l'avez jamais vu au milieu de travail engueuler quelqu'un ou discuter avec quelqu'un?
Non.
Jamais.
Aucunement.
Depuis 5 ans.
On peut
le décrire comme quelqu'un qui était, c'est-à-dire, harmonieux avec tout le monde.
Harmonieux avec tout le monde, qui se laisse pas marcher sur les pieds comme tout le monde.
Mais il aime le respect, il respecte les autres.
Exactement.
Tout,
mais il travaillait fort, il travaillait beaucoup. Mmh. Et puis
Mais revenons un petit peu, vous m'avez dit au cours de, avant de cette entrevue, comme quoi il avait un chien, si je ne me trompe pas.
Oui, il avait un chien qui traitait comme son fils.
C'était la seule chose qu'il avait,
c'était son chien.
Et le 1er janvier, quand c'est lui-même qui vous a raconté ça, c'est-à-dire quand il a eu l'interdiction d'aller chez sa conjointe, le chien est resté où?
Le chien est resté chez la femme, c'est ça qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas l'amener
avec lui. Pourquoi il ne pouvait pas, à votre avis, à votre.
C'est sûrement la police qui lui a dit, je ne sais pas.
Peut-être qu'il y avait une interdiction de la police
qui l'a interdit d'aller chercher. Ça doit. Alors là, il ne pouvait plus s'en occuper, ça devait être madame qui s'en occupe, et lui m'a dit de sa propre bouche que madame n'aimait pas les chiens, madame tapait les chiens. Et je pense qu'il avait appelé même la SPCA sur elle. Je ne suis pas sûr de ça, mais
pour vérifier
si elle s'occupait de son chien, parce que c'est tout ce qu'il y avait.
Mais il y avait aussi une information que peut-être c'est vrai ou que ça c'est pas vrai, mais ça semble un petit peu collé. Donc cette nuit-là du 26, il a entendu ou ça, il a eu un communiqué, peut-être un appel de sa conjointe qui lui disait que le chien il est mort.
Mais je sais que si elle parlait mal du chien, ça attristait profondément Jean-Claude. Jean-Claude, lui, quand il avait un peu d'argent et puis il pouvait se permettre, il se prenait 2-3 bières et il pensait à son chien. Parce que c'est tout ce qu'il avait.
Et dans cette thèse-là, il y a une possibilité que Jean-Claude, cette nuit-là, à 3h du matin, ou je ne sais pas, 2h du matin, il a bu un verre de plus et tout, et puis était allé pour voir si réellement son chien était mort ou non.
Vraiment comment son chien allait, parce que je sais que, je ne suis pas sûr, mais madame faisait des menaces beaucoup pour énerver Jean-Claude par rapport au chien.
Un chien, oui. Mais Stan, si je vous pose la question, vous le connaissez très bien et tout, c'est un collègue de travail et tout, pensez-vous que c'est quelqu'un qui peut attaquer une policière ou un policier?
Je sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête, s'il a vraiment fait ça, mais je pense pas finalement qu'il méritait de mourir cette journée-là du 26. Oui, il a peut-être des histoires à régler, que ce soit avec lui ou sa conjointe ou lui, puis la justice, c'est pas à moi de décider, mais le résultat qu'il a eu le 26 janvier, c'est pas ça que je pense qu'il mériterait.
Ce n'est pas un homme qui mérite la mort comme ça.
Non.
Et à votre avis, il a pu avoir un policier, parce que c'est une femme qui l'a battu, hein. Alors, on ne sait pas. C'était possible s'il y avait un homme sage, un policier sage, qui a pu peut-être le calmer, le remettre en raison.
Je pense, oui, parce que Jean-Claude, c'est pas le gabarit de joueur de football. C'est quelqu'un qui est d'une taille normale, qui n'est pas gros du tout. Oui. Je pense qu'il aurait été facilement maîtrisable. Oui. Mais je ne connais pas les circonstances de l'arrestation, alors je ne veux pas trop m'aventurer là-dessus.
Tout à fait. avez. Avez-vous une pensée de lui? Avez-vous gardé une pensée de ce type-là?
Ah, c'est tout le temps quelqu'un qui riait, qui faisait des jokes qui n'étaient pas drôles, mais il s'arrangeait pour qu'on rie. Et puis, j'avais pas beaucoup de cigarettes, il était tout le temps là pour m'en donner une ou deux. Même si c'est que j'ai enquêté, il m'en donnait trois. Tiens, Stan, prends-en, donne-moi-en demain. Il est tout le temps serviable. Je le respectais beaucoup parce qu'il faisait de la bicyclette en hiver, de où est-ce qu'il habitait jusqu'à où est-ce qu'on travaille. C'est un bon chemin. Il est un grand cœur. C'est des bonnes valeurs que je retiens de lui.
Et aujourd'hui, vous rendez au travail et il n'est plus là. Et j'imagine même le collègue et tout. Comment vous apprenez ça là?
Il y a un manque, il y a un grand manque.
Un vide là-dedans.
Tout le monde le ressent. Personne ne travaille à son 100% depuis le 26, depuis qu'on a su qu'il est parti de cette manière-là. Ça fait un choc à tout le monde. Et puis tout le monde essaie, par les moyens qu'ils peuvent, d'aider, essayer de chercher s'il a de la famille ou non, essayer d'aider pour savoir les funérailles, parce que c'est quelqu'un que
vous assistez,
c'est sûr que si je sais c'est quand les funérailles, c'est sûr que je vais y aller. C'est le moins que je peux faire.
Finalement, la société a perdu un homme, un travailleur, un bon travailleur.
Oui. Elle a perdu quelqu'un qu'il ne fallait pas perdre.
Qui mérite pas la mort.
Qu'il fallait peut-être aider, mais pas de tuer.
Il avait besoin de l'aide, mais pas d'être éliminé comme ça.
Non.
Je te remercie beaucoup, Stan, pour votre témoignage.
Merci.
Donc voilà, c'était le témoignage de Stan, un collègue de Jean-Claude Lemay, cet individu abattu le 26 janvier 2011, dans la nuit du mardi à mercredi. J'ai oublié aussi de vous dire que Stan, le collègue de la victime, est un chanteur de rap, donc il nous a apporté une chanson intitulée « Tué par le SPVM », écrite et composée par lui-même pour rendre hommage à Freddy Villanova, ce jeune tué par balle en 2008 à Montréal-Nord. Nous allons l'écouter ensemble et nous revenons avec notre mot de fin.
Le monde est tort, je me lance que tellement de tort. J'ai des tasses, une tartotte qui s'y fait, tu crois. Fais que l'eau sort, y'a la mort qui cogne ta porte. C'est des balles, bon pour ménager les menottes. Baudelaire, brutalité policière, rage incendiaire, franquin. Comme toute la famille paye parce que trop de jeunes qui meurent. Bouge pas, fais pas comme si on te parle pas de ses soins. Le mouton prend pas ce qu'il pense pas. Croisi, pas buzz, pêche-moi. J'rêve, j'suis peut-être le seul ici dans tous ces états. Dans tous nos éclats, du cap aux états. Qu'on aime, qu'on aime pas. Je sais ce que j'fais, je fais bien, puis j'le happe, tu sors. Nous pousse, man, nous ralentit, nous tire dessus, tous. Considéré bandit, une pensée Gandhi. Mais ça te fait penser dans toute l'histoire. Vois juste une arme de brandy.
Je veux faire de la prévention. En plus de la façon, à coup de balle, je m'attrape. Mon sensibilisant les gens. Tu me parles de moi, moi je parle de mes droits. Tu veux faire la loi, faire valoir mes droits. Faire valoir mes droits.
Yo, bienvenue dans la province où le drapeau est fleur de lys. Où la justice n'est nulle part, mais partout y'a de la police. Combien faut-il de sacrifices? Votre opinion publique change et crie à l'injustice. Aux yeux des policiers, tous les jeunes sont anarchistes. Les noirs et latinos, gangs de rue sont des complices. Et quand t'es maghrébin, t'es considéré terroriste. Ton texte est inspiré par Mohamed Anabénis. Par qui Dame Regis, prévivez la Nueva. Peut-être vous êtes parti, mais jamais on oubliera que la police tire sans même se justifier. Son pote au qualifié, pourquoi ils veulent jouer au justicier?
Je veux faire de la prévention. En plus de à coups de balle, je m'attrape. Mon sensibilisant les gens. Tu me parles de moi, moi je parle de mes droits. Tu veux faire la loi, faire valoir mes droits. Faire valoir mes droits.
Le son sang d'un innocent qui n'a même pas déclenché l'alarme. C'est pas une pente verte quand les parents versent les larmes. On crache pas sous la main, en train de mourir. J'ai décidé de rapper là où les oiseaux se cachent pour mourir. Je réveille les morts sous ce crack. Insécure, on a le trac. Ils nous tirent dessus, nous abattent coup de matraque. 43 personnes tuées par la SPVM. Et c'est pas normal que la police enquête sur eux-mêmes. Se venger de ce qu'on a envie, dans cette chaîne on survit. C'est injuste, pourquoi enlever quelqu'un sa vie? Non, on pourra pas se taire. Ils sont jamais condamnés pour meurtre ni pour homicide volontaire.
Je veux faire de la prévention. En fait, coup de balle de matraque, comment sensibilisant les gens. Tu me parles de moi, moi je parle de mes droits. Tu veux faire la loi, je veux ma loi, mes droits. Faire ma loi, mes droits. Je veux faire de la prévention. En fait, coup de balle de matraque, comment sensibilisant les gens.
Voilà donc, chers amis, chers auditeurs, c'est tout ce qui nous reste de notre émission. Je lance un appel à tous les avocats humanistes que M. Tayen, cet homme qui a été blessé par un agent de la SPVM le 2 mars 2008, souhaite votre aide pour une poursuite au civil le plus tôt possible et nous espérons qu'un volontaire se manifeste rapidement. Donc c'est une question de temps, de prescription. Merci aussi à M. Mohamed Tayen d'avoir eu ce courage de témoigner et une autre réalité qui choque. Merci à Stan pour son témoignage et sa chanson. Nous espérons vous revoir sur notre plateau bientôt. Merci à Mario Languet, notre technicien de son. Merci aussi à vous, chers auditrices, chers auditeurs, pour votre fidélité, d'être à l'écoute. Sans oublier, bien sûr, Radio Centre-Ville 102.3 FM, de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À moi, je vous dis, chers auditrices, chers auditeurs, vendredi prochain et à bientôt. Ani ma jigi an gitani mi no se nan mi tashne tigi dunani awi ago yani gigi gendan ki chi uji piama il capi il adi zian.
L'endroit à Montréal où vous procurez les matelas orthopédiques en exclusivité. Les vrais, les originaux, faits au Québec. Chez Lidor, ils sont simplement des spécialistes du matelas à des prix qui ne vous empêcheront pas de dormir.
Venez voir l'expert Lidor.
Oui, venez chez Lidor. Comparez et jugez. L'expert en matelas, c'est Lidor. 6552 Boulevard Saint-Laurent, juste au nord de Beaubien. www.lidor.com.
Adoramique!
Montre-toi donc, diplodocus, babouin, mégalomane, flibustieux!
Toutes les tragédies que tu as vécues, la femme que tu aimais, traquée jusqu'à la mort, tout ça, je peux le faire disparaître. Je crée une unité spéciale, aux pouvoirs spéciaux. Rejoins-moi. et tu auras ta vengeance.
Les mutants, non, je ne les déteste pas, mais il faut les contrôler.
Au Pays des Bulles, toute l'actualité de la bande dessinée, le lundi dès 13h.
Descends donc, Cro-Magnon, macrocéphale, ectoplasme!
Emploi,
actu,
relations de travail,
formation, diplôme,
compétences,
apprentissage,
formation,
emploi,
actu.
Les lundis de l'emploi, c'est tous les lundis de 8h à 9h sur Radio Centre-Ville.
Pour l'intégration de tous sur le marché de l'emploi au Québec et au Canada. Et c'est animé par Gwen.
À Marielle de Musique du Monde, Radio Centre-Ville vous fait voyager. Aux quatre coins du monde, Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.